de Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et salut à tous, 84e émission de l'Instant Sport aujourd'hui avec des résultats contrastés, mais nous allons le voir dans cette émission. Il est de retour de vacances, frais et dispo, journaliste sportif à la Lozère Nouvelle. Salut Patrick Biancone. Ah, il y a un petit problème sur le micro, d'accord. Ah ben c'est bien déjà qu'on n'a pas beaucoup. Tiens, prends le celui-là en attendant. On va résolver. Alors bon. Patrick, ouais c'est bon. Celui-là.
Bonjour à toutes et à tous et très heureux d'être de retour parmi vous.
Voilà, dis-nous un peu alors ces vacances, comment ça s'est passé?
Très bien, à Vienne, quelques gouttes de pluie quand même, il faut pas dire le contraire, mais très belle ville, on parle souvent de Paris, mais Vienne est pas mal au niveau des monuments.
Ok, donc tu t'es régalé, beau temps, tout ce qu'il fallait.
Ouais, ça va, météo un peu mitigée, mais sinon très bonne ambiance et on a pu visiter ce qu'on voulait, donc c'était parfait.
Ok, parfait, toi tu es resté par là, Julien Gall qui est là, salut.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors, fais-nous rêver, combien de matchs tu es allé voir ce week-end?
Mais je suis allé en voir qu'un seul.
Qu'un seul?
Ouais, les féminines.
Oh, mais c'est bien. Mais c'est une bonne chose. Et tu as...
C'était dimanche, les féminines.
Non, les féminines au foot qui ont gagné 1-0 et qui continuent d'être invaincues dans ce championnat. Et c'est tant mieux. Bon, le capitaine est là aussi, alors il va falloir lui trouver un nouveau surnom. Une semaine d'entraînement avec le BCM et voilà, premier match, première victoire à l'extérieur. Je suis l'un des favoris. Aurélien Lacasse, salut.
Bonjour à tous.
Eh ben bravo hein,
ouais,
ça
merci.
Part bien.
On va en reparler, j'espère.
Ouais, on va, ben oui, on va en reparler en plus.
On va détailler tout ça.
Tu les as laissés partir sans toi. Ça y est, les consignes étaient données, l'entraînement était fait.
Voilà, c'est exactement. J'avais donné mon 5 majeur, quelques consignes. Bon après quand même, j'avais demandé à ce que le match soit filmé quand même pour pouvoir voir le match et travailler après sur les points faibles et les points forts.
Eh ben on reviendra dessus dans cette émission. Salut Laurent, il est là aussi.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors Laurent, toi aussi, je t'ai aperçu devant le podium du Tour du Gévaudan.
Voilà.
Juste en dessous de Miss France, entre Miss France et Miss Monde.
Je suis allé me faire une idée.
Miss Languedoc-Roussillon, pardon.
Je suis allé me faire une petite idée sur notre capacité à gagner l'élection de Miss France au mois de décembre prochain.
Et alors?
Ben alors, je suis pas encore convaincu.
Ah.
Mais à voir, on sait jamais.
On sait jamais, ben oui, jamais. Parce que, et c'est pas toujours les plus belles qui gagnent, hein.
Oui, mais je sais pas. Hein, il faut.
Regarde Miss Île-de-France l'an dernier, lamentablement
elle a
perdu.
Oui, c'est
alors
vrai.
Que j'avais misé sur elle. Et
par
voilà.
Contre, je suis allé voir les vélos aussi.
Oui.
C'était très intéressant dans la côte, aller voir souffrir. Voilà, merci Julien. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu du hand féminin et bien sûr l'équipe du volley-ball. Pour leur premier match à domicile.
Eh ben, on y reviendra dessus. Merci. Alors, des invités aujourd'hui, l'éveil karaté d'Omandois avec Valérie, que l'on connaît bien sur nos ondes, mais plutôt pour parler de littérature. Salut Val.
Salut.
Et également le président de l'éveil karaté d'Omandois, Yvan Gaspin. Bonjour.
Bien, bonjour.
Alors, merci d'être avec nous pour cette émission. On va parler donc de votre club, également de ce sport du karaté, car on le sait, il y a plusieurs courants dans le karaté. Donc vous, c'est du karaté do, c'est ça? Expliquez-nous un peu ce qu'il en est.
Nous, on présente le karaté shotokan, c'est-à-dire ça va être basé beaucoup plus sur des positions basses, relativement basses, ce qui permet que lors de soucis ou lors d'agressions ou autres, on aura des positions, ou même lors de combats, on aura des positions un petit peu plus hautes. Mais ce qui nous permettra aussi d'avoir de la force, du kimé, comme on l'appelle, et voilà.
Karaté do qui alors peut être traduit, j'ai cherché un peu sur internet, par la voix de la main vide ou la voix de la main et du vide, compris dans le sens la voix de la vacuité au sens bouddhique réalisée par la main ou les techniques, ou dans le sens la voix des techniques sans armes. Donc c'est vraiment ça, c'est du karaté sans armes de défense.
C'est tout à fait ça.
C'est un art d'autodéfense, donc qui se pratique les mains vides. C'est quoi? C'est bras, jambes, c'est par surprise, c'est démonstration.
C'est en main vide.
Après, tu peux avoir un travail avec les armes, avec les katanas, avec après ça fait partie de la même école en fait. La Fédération française de karaté, elle inclut énormément de disciplines à son intérieur. Même maintenant, on a le krav maga qui est rentré dans la fédération. Il y a quand même beaucoup de petites disciplines qui s'apparentent et qui sont associées au karaté. Mais c'est vrai que nous, c'est un karaté traditionnel, donc le karaté do Shotokan, où on va des fois travailler avec les armes, mais j'allais dire pour se familiariser avec, mais c'est une pratique sans armes et une pratique de défense. On apprend à attaquer pour apprendre à se défendre. Voilà.
Okay. C'est des exercices, des mouvements, des fléchissements, des sauts, de la stabilisation, c'est tout ça qu'on apprend lors des cours qu'on peut prendre lors de vos enseignements?
Tout à fait. Donc, les cours vont être régis souvent de la même façon. Hein. On va avoir les katas, les bunkai. Alors, le kata, c'est l'étude des formes, c'est-à-dire c'est une chorégraphie. On va avoir le bunkai, qui est lui-même une application du kata, hein, parce que c'est pas tout faire des gestes dans le vide. Il va falloir savoir à quoi ça correspond et comment fonctionne l'adversaire. On va avoir le kumite. Alors, le kumite, ça va être du combat soit souple ou un petit peu plus dur, mais ça reste toujours contrôlé. Le Gojitsu, c'est l'autodéfense, donc pour moi, ça rejoint le karaté, et divers, voilà. La préparation du corps, notamment au niveau échauffement, et on appelle ça la pratique du Taiso.
D'accord, vous indiquez sur votre petit descriptif qu'au-delà de l'activité sportive compétitive pour les enfants, cet art martial est une voie d'éducation tant corporelle que mentale. Donc parlez-nous un peu de cette dimension mentale du karaté-do.
Alors, je pratique le karaté notamment pour cette raison. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas un sport, ça est avant tout un art martial. Le sport, je vais le classer dans la compétition, c'est un autre esprit. Là, ce qui nous permet d'enseigner aux enfants, ce sont des valeurs. Les valeurs actuelles, enfin, qui pour nous ont beaucoup d'importance. Le respect de l'autre, la politesse, la sagesse. C'est-à-dire savoir se tenir quoi qu'il arrive. Savoir se contrôler, savoir calmer l'adversaire, ses besoins. La plus belle réussite, notamment au niveau du karaté, et ça, Maître Funakoshi l'a bien dit, c'est le non-combat. C'est-à-dire si vous arrivez à désamorcer un souci, et quand c'est sans violence, et surtout sans intervention du karaté, c'est là où on va situer la vraie victoire pour nous.
D'accord. On parle beaucoup de maîtrise de soi dans votre sport.
Art. Il y a deux façons de voir.
Pour vaincre, il faut d'abord se dominer. C'est ça, c'est d'abord un combat contre soi-même avant qu'il y ait un combat contre un ennemi?
Effectivement, parce que, notamment, nous on le voit beaucoup chez les enfants, où on voit des enfants timides, des enfants plutôt introvertis, où on va les voir au fur et à mesure des années s'ouvrir, s'extérioriser. Et franchement, c'est nous, au bout de 2-3 ans, on a vraiment un aperçu. Et on voit des enfants plutôt turbulents, comme on va les appeler sans être hyperactifs, hein, parce que ce mot-là est parfois galvaudé, mais des enfants assez actifs, où eux, justement, vont apprendre à se calmer. Moi, je le vois pendant les cours, où je leur explique bien qu'il est hors de question, on n'est pas dans une cour de récréation, donc on ne rit pas, on ne s'amuse pas, tout ça. Par contre, on le fera après, on échangera, mais en dehors du dojo. Et à partir de là, effectivement, ça apporte soit une assurance...
Est-ce que ça marche sur les adultes? Je pense surtout à Valérie.
Alors, je peux en parler. Ah, oui. Valérie est plus calme depuis 2 ans que je la connais. Donc, oui, effectivement, elle a fait des progrès à ce niveau. Mais en plaisantant, mais au niveau des adultes, oui, effectivement, on rencontre beaucoup d'adultes qui nous disent « Mais moi, je ne peux pas en faire, ça va être trop difficile. » Alors, effectivement, la coordination des mouvements n'est pas aussi simple qu'on voudrait bien le croire. Même si quand on voit qu'on fait nos katas, on se dit « Bon, c'est à la portée de tout le monde. » Non, effectivement, ce n'est pas toujours à la portée de tout le monde, mais ça s'acquiert au fur et à mesure du temps. Et le deuxième avantage, rapidement, c'est qu'on peut faire du karaté de 7 ans. Et après, il n'y a plus d'âge pour arrêter. Moi, j'en ai connu un monsieur qui avait 80 ans, qui faisait à sa mesure, et ma foi, qui...
Vous parliez des enfants, et donc jusqu'à 80 ans. Par contre, à partir de quel âge on peut mettre ses enfants
7 ans.
7 ans, d'accord.
7 ans, voilà.
Ok. Les katas, vous avez parlé des katas. Rappelez-nous un peu ce que c'est, katas. C'est des mouvements chorégraphiques, c'est ça?
Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une chorégraphie qui est basée sur les rythmes et sur les techniques. Donc il va vous falloir les techniques de base, et à partir de là, bah, avec des mouvements simples, on va faire le premier kata qui s'appelle Eyan Shodan. Et là, vous allez contrôler beaucoup de choses, c'est-à-dire les déplacements dans l'espace, vous allez contrôler votre respiration, vous allez contrôler votre fatigue, vous allez contrôler le tempo, parce qu'il y a un vrai tempo. Je veux dire, quand on fait des mouvements, ce n'est pas une suite aberrante. Non, non, il y a des temps d'arrêt, de respiration, d'observation, et on repart.
D'accord. Vous avez des enseignants diplômés qui vont de ceinture noire du premier à la cinquième dan, c'est ça ?
Oui, monsieur notre sensei, Bernard Sensei, Bernard Fabre notamment, vient de passer sa cinquième dan avec succès. Et croyez-moi qu'à Montpellier, ce n'est pas une mince affaire que d'obtenir son cinquième dan. Hein. Il a travaillé beaucoup.
Donc, art martial, self-défense, expliquez-nous qu'est-ce que vous proposez un peu comme cours ?
Nous avons la self-défense le mardi, merci Valérie. Donc nous avons la self-défense, ça permet aux personnes de venir voir un petit peu ce qu'est la self-défense. Et Sensei Bernard le fait très très bien, avec notamment sa femme Marie Fabre. Et maintenant nous avons un petit suppléant qui s'est inscrit pour enseigner, donc qui s'appelle Christophe. Voilà, donc ça permet vraiment que les gens voient un aspect... Et que ça les rassure, le self-défense va les rassurer. Sauf que le karaté, déjà, le mot karaté veut dire défense. Donc, effectivement, souvent, par curiosité, ils vont venir, et on les invite à venir passer un cours, voire deux cours, et souvent, ils restent après au karaté, tout en continuant la self-défense.
D'accord. Alors, j'ai trouvé les 20 principes du karaté-do transmis par donc, Funakoshi Gichin, de son prénom, à l'attention de ses disciples, afin de pouvoir de pourvoir à leur maturation spirituelle et mentale. Alors, le premier, n'oubliez pas que le karaté commence et s'achève dans le rei. Dans le rei, c'est ça, R-E-I. Dans le rei, Valérie. Donc, c'était une colle pour Valérie. Valérie, qu'est-ce que le rei ?
Ça y est, en plus, tu l'as pris sur notre nouvelle page.
C'est cela. Alors, donc, qu'est-ce que ça ?
Aucune idée.
Très bien. Merci, Valérie, de ta présence ici. Donc, nous avons, sinon, dans les principes... Alors, il n'y a pas d'attaque dans le karaté. Le karaté est au service de l'équité. Apprends déjà à te connaître, puis connais les autres. Le mental prime sur la technique. L'esprit doit être libre. Ne soyez pas obsédé par la victoire. Songez plutôt à ne pas perdre. Des principes, finalement, qui pourraient s'appliquer à tous les sports, même à la vie quotidienne. Hein. Ben, c'est ça.
De toute façon, le karaté, effectivement, la pratique, on le fait la plupart du temps dans le dojo. Mais c'est, je crois qu'à partir du moment où on attaque cette pratique, il faut la pratiquer tout le temps, que ce soit dans le cadre du dojo, mais aussi en dehors. On ne peut pas être, j'allais dire, teigneux en dehors du dojo et être teigneux dans un dojo. Donc, c'est une qualité de vie qu'on va s'appliquer dedans et dehors. Donc, c'est tout à fait les préceptes de Jinshin Funakoshi.
D'accord. Alors, le principe 8, c'est la pratique du karaté ne saurait se cantonner au seul dojo. C'est ce que tu viens nous dire.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Bravo, tu les as... À part le premier, tu les connais tous.
C'est ça.
C'est dommage. Alors justement, est-ce que vous avez réglé votre problème de dojo qui devait se transformer en bar associatif ou je ne sais, en clubhouse peut-être ?
Oui, pour le handball.
Pour le handball, oui, c'est
pour
ça.
Pour le handball, effectivement, nous avions une réunion, on devait être tenu informé de ce qui se passait, tant financier que début des travaux. Nous n'avons rien à ce jour. Nous nous sommes permis d'écrire une lettre qu'on va envoyer bientôt pour au moins qu'on nous informe des avancées des travaux, des avancées du financement, afin que nous aussi, on puisse prendre nos dispositions.
D'accord, donc pour l'instant, c'est l'inconnu.
Pas de nouvelles, ouais.
D'accord, ben on va suivre ça avec intérêt pour savoir. Laurent, tu as des infos ?
Non, je n'ai pas d'infos. J'avais une question pour les deux spécialistes, là, puisque sur une précédente émission, Ludovic avait interprété le karaté plutôt comme une danse.
Non, le kata.
Le kata.
Et
le kata.
Donc, du coup, je voulais savoir votre avis, puisque
le kata en lui-même, ça peut ressembler à une chorégraphie, parce qu'effectivement, tout est normalisé. Il y a les gestes sont. Alors, pareil, d'une école à une autre, le kata va porter le même nom, mais va pas être exécuté exactement de la même façon. Après, c'est une appréciation du sensei, mais c'est comme une chorégraphie et c'est un peu un combat imaginaire qui va être très, très normalisé, donc qui va être fait 100 fois et 100 fois exactement de la même façon, comme une chorégraphie.
Alors, je vais me permettre de rajouter quelque chose, quand même, c'est-à-dire que quand nous on part faire notre kata, et Valérie en est consciente, et ça j'en suis certain, c'est-à-dire qu'on voit l'adversaire en face de soi. C'est-à-dire que c'est pas la danse, on va partir, voilà, on est dans son monde, on est dans ses mouvements, dans son tempo et tout ça. Le karaté, non. C'est-à-dire si je pivote,
on s'imagine.
Ah, voilà, je pivote à droite, c'est-à-dire que moi, dans mon esprit...
J'ai un adversaire qui arrive sur la droite.
Arrive sur ma droite ou arrive sur ma gauche ou en face. Et mon regard va suivre et le regard doit être intense. Donc, quand j'observe des danseurs, leur regard part à droite, à gauche, parce que justement, ils sont dans leur monde. Nous, ça va être plutôt... Voilà, l'intensité du regard va être primordiale.
Ok, super. Côté pratique, expliquez-nous un peu alors quelles sont les différentes tranches d'âge pour prendre des cours, à quel moment on les prend, où, etc. Valérie, donne-nous un peu toutes ces informations.
Donc il y a les plus petits, donc à partir de 7 ans. 7 ans, c'est un peu le minimum parce qu'on va quand même avoir pas mal de déplacements et au niveau motricité. En dessous, c'est un peu difficile de leur faire acquérir les bases et surtout de tenir la concentration sur tout un cours. Donc à partir de 7 ans, les enfants se retrouvent le mercredi après-midi de 5h30 à 6h30. Après, ceux qui en sont à deuxième année et plus et qui ont toujours moins de 10 ans, ils ont deux entraînements par semaine, le lundi et le jeudi. Et après, donc il y a les troisième année et plus qui sont sur ces mêmes créneaux horaires. Donc le dojo est assez grand, donc on arrive à faire deux groupes d'enfants. Et après pour les adultes, donc on a trois entraînements par semaine. Donc le mardi, on commence par un cours de self-défense. Ceux qui le souhaitent après restent au karaté. Mais comme le disait Yvan, les gens qui viennent au self-défense, on leur apprend des techniques de self-défense qui sont issues du karaté. Donc très vite pour améliorer sa technique, si on reste au karaté, c'est parfait, puis on a envie en plus de découvrir. Donc il y a beaucoup de gens qui sont rentrés par le self-défense au club et qui sont restés ensuite au karaté. Après, on se re-entraîne le jeudi soir et on se re-entraîne le vendredi. Le vendredi, ça va être des cours à thème. Soit si on est peu nombreux, on va pouvoir demander à notre sensei, tiens, je voudrais travailler telle chose. Ou sinon, justement, on parlait des armes tout à l'heure, on va pouvoir travailler avec des katanas, c'est des sabres en bois. Vraiment un travail plus spécifique. Voilà.
Et parfois le samedi, quand on a la préparation de la ceinture noire, en ce moment, certaines personnes préparent leur ceinture noire, donc Bernard Sensei propose de venir le samedi. Là, c'est vraiment spécifique pour le passage de grade. Donc là, je peux vous dire, c'est intense.
Et c'est tôt.
C'est assez c'est samedi. Tôt le matin.
Bon, on va venir se battre le samedi alors, nous, Laurent. Laurent, comme celle défense, il a un super coup, ça s'appelle le coup de boule.
Ouais.
Hein, et ça marche pas mal sur les terrains de foot. Après, pas trop dans la vraie vie. Mais... sport olympique, hein, le karaté. Hein. Ouais. Qui va devenir ?
Qui va, oui, à partir de 2020, donc à Tokyo.
À Tokyo.
Plus, voilà.
Génial.
Moi, j'ai un avis assez mitigé sur ce sujet.
Même. Ah.
Voilà. Alors, on n'est pas les bons.
Contre la compétition.
Non, oui, c'est disons qu'aujourd'hui, pour moi, le karaté, on ne devrait pas appartenir au ministère des Sports, mais au ministère de la Culture. Mais dans le club, on n'a pas tous le même avis. Ça, c'est très, très personnel. J'ai peur que le fait de le. Si on regarde, par exemple, le taekwondo. J'ai peur que l'art soit un peu dénaturé. Et comment est-ce que ça va être diffusé à la télé? Est-ce qu'ils vont montrer que les kumités? Est-ce qu'ils vont montrer les combats? Ou est-ce qu'ils vont montrer aussi les katas? Et quelqu'un qui n'a pas la j'allais dire un peu de connaissances de base, regarder un kata sans savoir.
Ils vont dire comme nous, ah, c'est de la danse. Voilà. Ils ne sauront pas. Voilà. Vas-y.
Ce qu'on peut dire sur ce sujet-là, c'est que. Bon, quand on parle à martiaux, on passe de suite bien sûr au judo. Et le judo, le grand boom du judo, il s'explique justement par l'aspect sportif, avec les compétitions, les Jeux Olympiques, des grands champions. Et bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau karaté, la France, c'est un grand pays dans le monde. On a beaucoup de champions du monde, y compris au niveau féminin, on a des champions de niveau et d'un parcours. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais
Valérie Trémolière.
Mais j'ai vu un article il y a pas longtemps où il y avait bon une nana avocate, brillante avocate, elle est championne du monde. Bon, elle a un parcours de vie extraordinaire. Donc moi, à mon avis, je pense que c'est bien que le karaté devienne olympique parce que ça va donner un boom. Et tu parles du taekwondo. Bon, moi, le taekwondo, je savais même pas ce que c'était, on comprend pas. Et puis au début à la télévision, on comprenait rien, c'est vrai. Ils ont adapté certaines règles, en particulier au niveau technique où quand tu vois maintenant quand tu as un coup de pied, tu as un voyant qui s'illumine pour voir justement si tu es touché au plastron, à la tête, etc. C'est la spécificité du taekwondo. Et donc n'importe qui maintenant peut regarder un combat de taekwondo, je peux te dire, et tu comprends immédiatement qui c'est qui va gagner ou qui c'est qui perd, et tu te prends au jeu. Hein. Bon, alors c'est vrai qu'on en voit. Principalement qu'aux Jeux Olympiques, mais moi qui aime tous les sports et qui regarde les Jeux Olympiques du début jusqu'à la fin, je peux te dire que les combats de taekwondo, t'es accroché sur ton fauteuil, t'as une vraie adrénaline qui monte, t'as un vrai suspense, t'as un vrai combat, voilà, donc, bon, je comprends les puristes comme vous, mais bon, moi, pour moi qui aime le sport, c'est vrai que j'espère qu'on pourra assister à des combats de karaté aux Jeux Olympiques et voir nos champions français devenir arracher des médailles.
Ah, mais il y a des chances parce qu'il y a un très très bon niveau. Après, c'est vraiment sur le côté promotion, ça va nous faire du plus, c'est sûr, parce que ça va démystifier aussi ce qu'est le karaté, parce que les enfants, soit ils s'imaginent qu'au bout d'une heure, ils vont devenir Bruce Lee. Donc ça peut être que du plus sur ce côté-là, sur le côté communication, sur le côté publicité. Voilà. Après, moi, c'est cette partie un peu. On parlait de méditation, on parlait de ce côté un peu spirituel. J'ai peur que ça passe un peu à la trappe. Mais c'est pareil, au moins, il en faut pour tous les goûts et ça, c'est parfait.
Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous savez, en compétition, justement, il y a des juges qui notent chaque passage, ils notent sur la technique, ils notent sur quoi, en fait? C'est quoi le barème de cotation?
Sur les combats ou sur les passages de niveau en général?
Sur les combats, ouais.
Sur les combats,
alors, sur les combats, il y a 5 juges, il y a 4 juges, 4 arbitres qui sont sur les côtés, et vous avez un arbitre principal. Et c'est au lever de drapeau, quand le point est marqué, alors ça peut être à la tête, au buste ou aux jambes, donc il y a un lever de drapeau, et ainsi de suite, suivant le coup porté, voilà, un coup de poing, un coup de pied n'est pas noté pareil, donc et suivant la hauteur.
C'est ce que je disais par rapport au taekwondo, au début c'était comme ça, tu vois. Donc il y avait des juges, hein, et bon, après, comme tout jugement humain, il y avait d'énormes contestations, en particulier depuis que c'est aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a un vrai enjeu avec une médaille, ça peut transformer la vie d'un champion si tu as une médaille ou si tu l'as pas. Et donc ben, maintenant, ils ont adapté leur système, et donc il y a toujours des juges, il y a toujours un arbitre, mais en fait, c'est la technique qui prime, et c'est par rapport à la force d'impact, et il y a une lumière qui s'allume, donc après, maintenant, il n'y a plus de jugement humain, quoi. Donc ça a enlevé beaucoup de contestation dans le taekwondo. Alors c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Bon, et voilà, c'est vrai, la technologie qui entre dans un sport ancestral, bon, c'est vrai que ça peut paraître parfois dénaturé, mais bon, voilà, en tout cas au niveau sportif, c'est vrai que pour le taekwondo, ça a tout transformé et il y a beaucoup moins de contestation.
Voilà, là on sera un peu loin des préceptes d'Okinawa, mais
Eh ouais, mais il faut vivre avec son temps, ma chère Valérie. C'est ça.
Tu sais, moi je suis un peu vieille France.
Ah oui, je sais bien. Un site web, un numéro de téléphone, quelque chose pour se renseigner, en savoir davantage.
La seule chose qu'on n'a pas pris, c'est le numéro de téléphone. Mais sinon, si vous êtes curieux, donc
on mettra le lien
de la page Facebook.
Voilà,
on a un site internet, Éveil Karaté Domandoa. Sur Facebook, une page, pareil, on s'est mis à la modernité.
Ouais, qui s'appelle Éveil Karaté Domandoa.
Hein, ça s'invente pas. Et après, on a pas mal d'affiches d'amende dans le commerce.
Le prix.
Voilà. La licence est à 130€ pour les adultes et je crois 90 pour les enfants qui ont 2 cours par semaine et 75 pour les tout débutants qui ont qu'un seul cours par semaine. Après, on loue le kimono, alors de mémoire, je crois que c'est 5€ ou 10€ l'année.
10€ à l'année, donc vous pouvez changer tous les ans pour les enfants, ce qui est bien pratique, au lieu d'en acheter un qui sera perdu. Voilà. On le loue 10 années, on le rend propre et l'année d'après, on peut en avoir un autre.
Voilà. Ok, ben merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup. Oui, allez-y.
Je suis désolé, mais j'ai fait un petit oubli. J'ai oublié un de nos professeurs et une de nos professeurs,
Albany
Alonso, qui est quelqu'un de méritant parce qu'elle vient régulièrement pour les enfants. Donc on la salue en même temps.
Allez, on la salue, bien évidemment. Merci, on vous laisse vaquer à vos occupations. C'est gentil d'avoir participé à cette émission. On va parler, nous, de l'actualité sportive le temps que le plateau tourne. Laurent, toi, tu as micro, donc c'est bien. On va commencer avec toi parce qu'on va parler du Tour du Gévaudan. Le Tour du Gévaudan qui a eu lieu ce week-end et qui a vu la victoire de notre ami Guillaume Martin, coureur de la
Wanty.
Martin. Notre ami de la Wanty, c'est ça? Wanty?
Oui, une équipe belge.
Une équipe belge. Sans parler
avec
de.
Avec que les coureurs qui avaient fait le Tour de France, nous avait dit la semaine dernière, Benoît.
Oui, voilà. D'ailleurs, ce Martin a fini 23e du Tour de France.
Général.
Voilà, alors sans parler de la course en elle-même, beaucoup de monde sur les routes, un super temps. Comment t'as vécu, toi, en tant que spectateur, cette course? C'était
très vivant. Je suis monté dans la côte Jalabert après le troisième virage, là où c'est le plus compliqué pour les coureurs. Et ouais, il y avait pas mal de monde dans l'ascension, bien sûr des figures locales qui sont venues voir les sportifs. Et puis ça c'est bien ce système de deux côtes là. Donc on voit que entre le premier tour et le deuxième tour, ben c'est plus les mêmes favoris. Et puis ça nous laisse le temps de redescendre voir l'arrivée sur le Forail. Donc c'est une très belle étape, je trouve. C'est bien pensé par les organisateurs de pouvoir voir l'effort en cours d'étape et puis l'arrivée, ce qui est quand même aussi très intéressant dans une course cycliste.
Voilà, vraiment une manifestation.
Avec des pointes de vitesse hallucinantes sur le boulevard.
Alors, est-ce que les vélos avançaient tout seuls?
Ils avançaient très vite, mais je pense que c'était à la force des cuisses.
Il a lancé la polémique la semaine dernière, tu le connais.
Les moteurs dans les vélos.
Ouais, c'est ça. Et ouais, Patrick, d'ailleurs, je tiens, c'est la première fois sur nos 83 émissions que tu prends la parole à midi, à 1h moins 10. Tu restes 20 minutes muet.
Et oui, parce que il y a eu un problème de micro, donc avec Julien, avec Julien, avec Julien, mais pas Laurent, hein, notre ami Juninho, on a été privé de micro, donc c'est vrai que donc il fallait arracher le micro à Laurent, donc on n'a pas osé, et donc on est resté un peu discret jusqu'à la fin du karaté.
Cette émission est à marquer d'une pierre blanche, hein, quand même. Exactement. C'est une première. Première journée de championnat élite en volley-ball, première victoire pour le MVL 3-7-1 contre Grenoble 25-15, 21-25, 25-18, 25-15. Alors, on nous disait avant ce match, notamment Julien et Patrick, vous nous disiez de faire attention à cette équipe de Grenoble. Eh bien, même si elle a gagné un set, il n'y a pas vraiment eu de match. Qui va en parler
aussi, un peu.
Il y a un peu de match. Enfin, au vu du résultat, c'est... Ça...
Oui, sur le résultat pur, oui. Il y a eu
avant de parler du match, si vous voulez, notre ami et fidèle auditeur, Papy, alias Christian Bartier, vient de m'envoyer une info qui s'annonce capitale, donc là, il faut bien la retenir. Vous savez qu'il faut cocher cette fameuse case pour savoir si on peut monter. Et d'ailleurs, c'est, comme Mande ne l'avait pas coché, ce qui explique, malgré notre deuxième place, qu'on soit toujours en élite cette année. Donc, la commission a fait son œuvre, a analysé tous les dossiers, ce qu'on cochait ou ce qu'on pas coché. Donc, voilà, on a maintenant les clubs qui ont coché cette fameuse case.
Combien sont? Voilà. Parce que s'il n'y en a que deux, on est sûr de monter, en fait.
Voilà, non, il y en a plus de deux. C'est la grosse annonce. Donc, Saint-Jean-d'Illac, banlieue de Bordeaux, Fréjus, donc, qui sont dans notre poule, Martigues, qui descendent de Ligue B, Beauvais, qui a été un club qui, il y a quelques années, a fait la Coupe d'Europe, mais qui était redescendu à cause d'une faillite, et donc là, qui était en N2, et qui remonte en élite. Et donc, le MVL, donc, ça qui fait qu'il y a 5 clubs qui sont éligibles à l'accession. Alors, on aurait pu penser qu'il y en aurait plus, en particulier cette fameuse équipe d'Épinal, qui nous a donné beaucoup de fil à retordre dans la semaine dernière. Épinal n'a pas coché, cette case. Et puis, il y avait Strasbourg aussi, qui était relégué de Ligue B.
Les copains de Lolo.
On pouvait penser, eux aussi, qu'ils voulaient.
Et Grenoble, donc, du coup, n'a pas.
Non, Grenoble n'a pas coché, et Strasbourg non plus. Donc, retenez bien, Illac, Fréjus, Martigues, Beauvais et Mende, 5 clubs
pour deux places. Alors il y aura déjà un déçu à la fin de la première phase, puisqu'il y a bien que 4 équipes à la fin.
Mais il y a deux poules.
Oui,
il y a deux poules.
Il se retrouve à 8 en deuxième phase.
Ah oui, t'as raison.
Donc en fait, on est 3 dans notre poule, donc c'est-à-dire bien sûr Mende, Fréjus et Martigues dans notre poule, et puis dans notre poule il y a Illac et Beauvais. Pourquoi
ils le font pas eux?
Le centre national, non, ne coche jamais parce que il faut après des contrats pro et les jeunes n'ont pas de contrats pro.
Ah, d'accord.
Ils sont en formation.
Ils sont assurés, de toute façon, le CNVB de jouer les playoffs, quoi qu'il en soit.
Patrick,
même s'ils gagnent pas un match, ils jouent les playoffs.
Pour rebondir sur cette information, c'est bien parce que j'allais vous demander juste après, par rapport à cette première journée, s'il y a eu des surprises. Alors, les 3 que tu nous annonces qui ont coché cette case, les 3 ont gagné.
Oui.
Fréjus a gagné 3-1 contre Arnes, Martigues 3-0 contre Charenton, et Mende, donc 3-1 contre Grenoble.
C'est ça.
Et le centre national qui montera pas a gagné 3-0 contre Caudry.
C'est ça.
Mais qui jouera les playoffs.
Oui. Même s'ils sont pas dans les 4
points. Ah oui, c'est vrai qu'ils jouent les playoffs.
Même s'ils sont pas dans les 4 points.
Julien, tu étais au match.
Voilà, revenons au match.
Revenons au match. J'ai vu que j'étais le seul à y être.
Ah, c'était.
Non, j'étais aussi.
Non, il y était.
J'étais aussi.
Ah oui, d'accord. Bon, mais vas-y, je te laisse parler.
Oh, merci.
Allez, Julien, vas-y.
Ça, je te contrerai.
Comme la semaine dernière. Tu dis qu'il n'y a pas eu de match. Si, il y a eu un peu match quand même.
Oh.
Ça a mis un peu de temps à se lancer au premier set. Il y a eu un peu un round d'observation entre les deux équipes. Petit à petit, Mende a fait parler sa supériorité sur le premier set. Mais par contre, le deuxième set, il était clairement à l'avantage des Grenoblois. Et même le début du troisième, où ils étaient sur leur bonne dynamique, il y a eu 8-1. 8-1, ça a commencé sur un 8-1 pour Grenoble.
C'est ça.
Et,
dans le troisième, oui.
Dans le troisième. Et Constant a posé un temps mort. Je pense que les joueurs n'ont pas dû être sourds. Parce qu'il y a eu une sacrée révolte. Et notamment Moussé Gueye, qui est complètement rentré dans son match à partir du troisième set. Ça allait très très haut, que ce soit offensivement et défensivement. Et de ce moment-là, de 8-1 pour Grenoble au troisième set, jusqu'à la fin du match, il y a eu un Moussé Gueye vraiment qu'on a connu comme l'année dernière, avec une qualité assez incroyable. J'ai eu la chance de commenter ce match pour un média local avec un journaliste de Grenoble. Là, et il était impressionné par la qualité de jeu de Moussé Gueye.
Ah, je croyais par la qualité de tes commentaires.
Ah, il me l'a dit aussi. Ça aussi, mais je voulais pas me mettre en avant parce qu'après on me dit que je me la raconte, que j'oublie des défaites au match, tout
ça. C'était pour
pour une radio. Ouais.
Ah ouais, pour une radio.
Ouais. Okay. Ouais, pour un média local.
Il va nous demander une augmentation dans pas longtemps.
Tu veux dire que tu fais des infidélités à 48 FM?
Ouais, puisqu'on propose.
Non mais tu peux le voir sur internet. Il y a une radio grenobloise qui a annoncé avant le début de la saison qu'elle suivrait tous les matchs de. Alors elle fait tous les sports.
J'ai vu, elle met le lien.
Elle fait tous les sports, mais au niveau du volley, elle a décidé de suivre tous les matchs de la saison extérieure et domicile du club de volley.
Parfait, ça.
Ouais, c'était vraiment sympa comme moment. Laurent, si tu veux me contredire, vas-y.
Non, t'as très bien parlé. J'ai exactement vu le même match que toi. C'est vrai que avant ce temps mort, je trouvais les joueurs un peu apathique, ça tournait pas rond, mais il y avait pas de révolte, il y avait pas, par exemple, Angelo Teno qui pouvait rameuter les troupes la saison passée, et puis c'est le coach qui s'en est occupé, et en effet ça a été un autre visage, et bon, il y a eu la victoire au bout, mais on se rend bien compte que tous les matchs vont, a priori, Grenoble qui on savait pas trop,
Si, vous aviez annoncé tout ça. Oui, attention à Grenoble. Le gros chien,
ils avaient fait une bonne préparation,
comme toutes les équipes, j'ai l'impression, puisqu'on a entendu que le prochain adversaire a quand même battu une Pro B, un match amical. Donc, du coup, ça sera très très dur cette saison.
Par contre, je pense que les
joueurs vont être concentrés, pas qu'à partir du troisième set, dès le début du match.
Quelque chose qui fera la différence, je pense, cette saison, par contre, ce sera le banc.
Et ouais.
Il y a vraiment une qualité au MVL là, quand Paul Cooper, donc le nouveau passeur, est sorti.
Il paraît qu'il a été bon, Cooper.
Il a fait un bon match, mais il a eu un moment de moins bien, et Constant l'a fait sortir, il a fait rentrer le jeune grec Dimitrios Komitoudis, et il n'y a pas eu de différence, quoi.
Quelle nationalité, Cooper?
Français.
D'accord.
International junior, ex-international.
Parce qu'il y a une bière australienne qui s'appelle la Cooper, qui est excellente, je vous la conseille.
Il y a le gin aussi.
Elle est en vente à la Servine, je vous la conseille.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura des équipes bien supérieures à Grenoble tout au long de cette saison. Mais bon, c'était capital, bien évidemment, de commencer par une victoire à domicile, qui plus est. Mais dans cette équipe de Grenoble, pour ceux qui connaissent un peu le volley, il y avait un entraîneur. C'est un mythe dans ce sport-là, c'est Christophe Menon, c'est-à-dire c'est comme si Liliane Thuram était l'entraîneur d'une équipe de foot qui vient de jouer à la FL. Plus de 400 matchs en équipe de France. Le deuxième joueur avec le plus de sélections dans l'histoire du volley du volley français. Donc c'est vraiment un gars qui a tout connu dans sa carrière, et donc il est en train petit à petit de bâtir un club, parce que Grenoble a été un club qui a joué en première division de très nombreuses années. Ils sont en train d'essayer de revenir au plus haut niveau. Alors cette année ils n'ont pas coché la case parce que bon, ils sont un peu just encore, mais dans les années à venir ils veulent revenir au niveau professionnel. Et Julien le disait, moi j'étais pas au match, mais les échos que j'ai eus, tout le monde m'a parlé de l'entrée du passeur grec, qui a été un peu phénoménal, un peu surprenant, et qui a cette capacité à décaler l'attaquant, qui est toujours face à un seul contreur, ou même parfois avec zéro contreur face à lui. Alors c'est vrai que pour ceux qui côtoient le club, il paraît presque un peu nonchalant, un peu pato même, avec de la difficulté à se déplacer, mais il est toujours présent, et puis surtout il a une sorte de vista. Et donc là on a deux passeurs cette année, on a perdu nos deux passeurs, mais donc les deux recrues au niveau de la passe, ça promet des grands moments.
Ok, parfait. Oui, côté stats, point fort le bloc, tu en parlais, 14 points marqués dans ce secteur, et le service, 7 aces, c'est le point fort, cette ligne service bloc défense, c'est la ligne forte des Mondois, Patrick ?
C'est vrai qu'au niveau du bloc, Constant, je sais que Constant insiste beaucoup sur cet aspect au niveau du contre, parce que le contre, il y a deux aspects, c'est-à-dire que tu peux contrer et marquer le point, mais il y a aussi le fait de ralentir les ballons. Et en ralentissant les ballons, si tu as tes défenseurs qui sont au fond du terrain, ont plus la capacité après de revenir le ballon, et là tu peux avoir attaqué, la possibilité d'attaquer et donc de marquer le point. Donc c'est tout cet aspect-là de marquer, certes sur contre, mais aussi de ralentir les ballons pour faciliter la défense. Et c'est ça qui permet après de relancer et de marquer des points. Et en principe, c'est des points assez faciles à marquer. C'est très important dans un match.
On a, pour contrer, un nouveau joueur qui s'appelle Minoa.
Minao.
Ninao. Et attention, attention, c'est son surnom, parce que si tu poses son nom, c'est imprononçable. Donc il vaut mieux que tu l'appelles Ninao, c'est son surnom, tu as raison.
Très grand, très balèze, très impressionnant. Donc c'est vrai que c'est quand même bien pour
D'après ce qu'on m'a dit,
tous les auditeurs ne savent pas combien je mesure.
D'après ce qu'on m'a dit, il y a déjà une relation entre le passeur grec et donc le central brésilien.
Il y a toujours des relations avec les Grecs.
Non, mais il y a eu, non, mais il y a eu
des Grecs et Brésiliens.
Il y a eu des phases de jeu. Il y a eu des phases de jeu entre les deux assez impressionnantes.
Allez, on va arrêter la radio People là, Patrick. Là, je sais pas pourquoi tu nous parles de ça. Ça nous intéresse pas. On est là pour parler de sport.
Pas du tout.
Bon, bah écoute, le classement, hein, on s'en fiche. Il y en a 4 qui ont gagné, 4 qui ont perdu, donc et on verra le prochain match.
Déplacement, ouais, samedi, c'est ce que j'allais dire. Voilà.
À Caudry.
Non, à Arnes. À Arnes, banlieue de Lens. Ouais. Un promu qui était en N2 et qui monte à N1.
Qui a pris un 7 à Fréjus.
Et oui, Fréjus, donc comme on l'a dit, un gros candidat à la montée.
Ouais. L'équipe 2 en pré-national continue sa belle marche en avant avec une deuxième victoire en autant de journées. Victoire 3-7-0 au Crès. Alors, prochain match, attention, contre une grosse équipe de ce championnat qui a clairement affiché sa volonté de monter. Ouais. C'est Gignac. Ouais, le match a lieu à Mende, c'est ça?
Samedi 20h à Piancourt face à une belle équipe de Gignac qui s'est inscrit en Coupe de France cette année et qui a passé son premier tour hier en éliminant deux N3. Clermont-Lérault et une équipe de Montpellier. Donc ce sera très très solide.
Beau match à aller voir.
Test. Voilà, bon match en perspective. Ouais.
Allez, avant de parler de notre Mourinho départemental, on va faire une pause musicale avec le Prince Miou qui chante Football Team.
Yeah.
Allez, on est de retour.
J'ai adoré, quoi.
Allez, ouais, je sais. Tiens, Mourinho, il est là. Un entraînement, il laisse son équipe aller jouer sans lui, pas besoin. Il a donné les consignes. Bim, victoire à Capdenac. Je parle de basket avec le BCM dans ce championnat départemental aveyronnais. Le BCM qui gagne 49 à 46 à Capdenac Figeac. Alors, Auré, parle-nous de ce match un peu. Alors, j'imagine que tu as eu des échos. Tu nous as dit, tu as vu des vidéos un peu du match?
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, d'abord, la victoire en revient, en priorité aux joueurs, hein, parce que vraiment.
En plus, il est humble. On a un. T'as vu ça,
Laurent? Ah, c'est beau, ça. C'est beau.
C'est pas avec trois entraînements que j'ai tout chamboulé dans l'équipe et dans la façon de jouer. Donc, la victoire leur revient en priorité à eux. Donc, au niveau du match, ça a été serré tout le long, puisque ça s'est joué souvent par série. Une équipe qui marque 8-0 ou 10-0 après l'autre équipe qui fait de même. Ça a vraiment été une rencontre par série. On n'a jamais vraiment pris l'ascendant au niveau du score. Et ça fait que ça donne ce score très serré. On s'est même fait peur sur la fin puisque à 2 minutes de la fin, on menait de 8 points et tu vois, on finit avec 3 points d'avance. Donc effectivement, ça a été tendu tout le long.
Voilà, avec Blanchis qui vient du volet, qui marque 8 points, c'est ça.
C'est ça.
Personne n'en a l'habitude. Il est bon, lui, hein, 13 points. Janarelli, 7 points. Soubéran, 7 points. Jacquet, 2. Aïl, 10, 4. Turatello, 4. Voilà, c'est bien. Il n'y a personne qui ressort. C'est un match d'équipe, il semblerait.
Ouais, c'est un match d'équipe, même si sur la vidéo, il y a encore quand même beaucoup de progrès à faire. Hein. On le voit notamment sur le physique, sur la fluidité du jeu, la défense qui est pas encore tout à fait en place. Donc
ça, c'est au boulot à l'entraînement,
exactement,
ça. Hein, c'est
exactement.
À l'entraîneur,
donc
hein.
Il y a encore des axes de progrès à faire. Mais donc on retiendra avant tout la victoire, hein, puisque c'est quand même important. Premier déplacement à Capdenac, là-bas, c'est à la limite du Lot, puisque c'est une entente avec Figeac. 2h30 de route le vendredi soir, comme ça, en sortant du boulot. Donc voilà,
ouais,
c'est
compliqué.
Vrai que l'objectif premier était de se faire plaisir. Ramener la victoire, c'est que du bonus.
Alors attends, si tu veux parler, tu prends le micro, Laurent.
Alors,
sinon,
petite
ça
info,
pour les
petite info,
match retour.
Non mais petite info, c'est le revers de la médaille. L'Aveyron a déjà demandé l'excuse de demande parce qu'il passait, mettre une branlée. Mais là, donc déjà, il y a déjà quelques clubs qui ont envoyé un courrier au district de l'Aveyron pour dire qu'est-ce que c'est ce club mandois. Il faut qu'il rentre chez eux.
Ils ont autant de victoires qu'il y a 2 ans. Avec un seul match.
C'est vrai.
T'imagines?
Voilà.
Quand il y avait ce grand Luc Respon qui était pivot. Hein, bon, mais écoute, c'est bien, on va suivre. Tu sais, le prochain match, c'est
normalement, on devait jouer ce week-end à domicile, mais le match est annulé, puisque, effectivement, je crois que l'équipe a eu peur, ils ont fait forfait général.
Ah, tu vois? C'est ça, c'est la première conséquence.
Comme tu dis. Donc, c'est le prochain match.
Tu peux citer des blaireaux, là, qui ont fait ça?
15 jours, je sais plus qui c'est.
Mais ça fait 2 victoires en 2 matchs, du coup.
Et non, du coup, ils ont été exclus, donc du coup, ça rentre pas en compte. Donc, prochain match dans 15 jours, déplacement à Olemps.
Ok, d'accord, super. On compte pour une victoire ou pas la semaine prochaine? Tout le monde marque un point, ouais.
Tout à fait. Okay, tous les matchs, on va viser la victoire, hein, de toute façon.
C'est bien ça. Allez, handball, une soirée oubliée pour le MGC du côté de Cournon. Défaite 43-25. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, 43-25?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, quoi. Hein, on s'attendait. Bon, une défaite, peut-être.
25 contre-attaques directes pour les Auvergnats.
Mais là, c'est vrai, un tel écart, c'est une très mauvaise surprise. Surtout après cet excellent début de saison avec la victoire en Coupe et la première victoire en championnat à domicile. Bon, ça remet un peu les pendules à l'heure, hein, mais c'est vrai que ça pose des questions. Hein, un tel écart,
43-25, quoi.
43 buts, c'est vrai que c'est hallucinant. Bon, à oublier au plus vite, mais quand même à garder dans un coin de la tête. C'est un résumé de tout ce qu'il faut pas faire, hein, à mon avis. Hein.
Oui, certainement. J'ai pas vu les stats encore, mais
à part Erwan Pott a mis 11 buts.
Ok.
Il y avait notre mandois, Kevin Bocanegro, qui a signé à Cournon, qui a mis 8 buts et qui a fait un match de toute beauté contre ses anciens coéquipiers.
Mais disons que on parle là, tu as dit qu'il y avait eu 25 contre-attaques directes pour les Auvergnats. C'est sûr que la tonicité de Kevin Bocanegro a dû pas mal les aider.
Et le repli défensif n'était pas là, ouais.
Il y a eu une non-mi-temps, puisque d'après ce que j'ai lu, il y avait 13-11 après 27 minutes. Donc,
ça se tenait, ils ont complètement lâché.
S'écroulé en deuxième mi-temps.
Il y a eu une fin de point à mi-temps catastrophique, puisqu'il y avait 7 buts d'écart déjà à la mi-temps pour Cournon, alors que c'est vrai que jusqu'à 20-25 minutes, au moins jusqu'à la 20e, c'était très très serré. Et donc cette fin de première mi-temps cataclysmale, mais il y a eu non seulement aucune réaction en deuxième, mais au contraire un lâchage complet du match, et ce qui explique cet écart abyssal qui est vrai qui est quand même très très rare au handball et en particulier à 1-3. Hein.
Et c'est d'ailleurs ce qui est bizarre quand on regarde les stats et le match, c'est que souvent le mental c'est le point fort de cette équipe du MGC. Et là vraiment, on voit qu'il y a vraiment une faillite collective. Ils ont tous lâché collectivement. Après, il y en a peut-être pas eu un dans ces cas-là. Quand on est dans un cercle vicieux comme ça, c'est dur de remonter la pente et qu'il y en ait un qui prenne les devants et qui amène tout le monde dans son siège. C'est très difficile à faire, mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont vite se reprendre.
Il manquait le capitaine, hein, c'est ça.
Flo Coste qui a une entorse à la cheville, ouais, qui compte bien reprendre prochainement. Mais c'était le seul absent avec Robin Bartholomé aussi. Mais voilà, je crois que je me suis pas plus renseigné que ça, parce que quand on prend des routes pareilles,
oui.
Je crois que j'allais pas embêter les joueurs ni le coach non plus. Il y a 15 jours de ça, l'Avenir Foot Lozère a pris une fessée queue rouge en Coupe de France. On avait dit que chaque équipe avait le droit à un jour passer à travers. Donc là, c'est, je pense que le MGC a grillé son joker de la fessée queue rouge. Et on espère que dès ce week-end, ils vont se ressaisir. Et ça sera pas facile, parce que ça sera un match de Coupe de France contre une très belle équipe.
Oui, mais c'est bien justement d'avoir un match de Coupe de France, sortir du championnat.
Ça tombe bien finalement. Une équipe où finalement, de Montélimar qui joue en équipe 2, où on n'a pas la pression. Si Montélimar gagne, c'est normal.
National 2.
Oui, National 2. C'est un match de gala samedi
donc,
prochain.
Donc ça sera très bien pour retrouver confiance en soi, je l'espère.
Exactement. En attendant, une belle victoire de la réserve 35-33, la réserve de François Velay pour son premier match à domicile, après avoir été pourtant mené de 7 buts.
Voilà, c'est ça. Ils sont passés devant à la 56e minute du match. Ils ont été menés tout le match pour finalement gagner. Bravo à cette équipe.
Alors par contre, les féminines se sont inclinées à Bouillargues, 21-23.
C'était Amende contre Bouillargues. Donc voilà, l'équipe féminine est très, très jeune. Donc,
Elle apprend. Oui, c'est bien. Ça a perdu également du côté du handball Nord-Lozère, du côté des féminines, qui ont chuté à Chamalières, 27-19. Voilà pour le hand de football, ça va aller vite. Coupe de France, Le Buisson et le NL sortent de la compétition. Le Buisson perd 2-0 contre Canet, le NL 7-0 contre Espaly. C'était plus ou moins attendu, ces défaites. Julien.
Oui, le Buisson, je trouve le résultat du Buisson honorable, étant donné l'écart de niveau, puisque Canet en Roussillon est dans la poule de l'AFL en National 3, et le Buisson est en PHB, donc 2-0, c'est
4 divisions d'écart.
Voilà. Et oui, le NL, bon, ça fait toujours lourd quand même de perdre 7-0, mais Espaly, c'est une belle équipe.
Tu avais joué contre Espaly.
Ouais, on les avait joués en match amical. Et c'était.
Tu en avais aussi pris 7.
Non.
Si.
Si, on en avait mis 2.
Ah, ouais, c'était mieux.
Non, mais Espaly, c'est une belle équipe, mais par contre, c'est vrai que le NL, ça va être, on a l'impression, encore une saison compliquée pour eux.
Et ouais.
Voilà. On les affrontera en Coupe Lozère, donc.
Mais il faut souligner cette performance du Buisson. Hein. Il y a eu un match de toute beauté devant un public en folie, tout un village, tout.
Tout un canton,
après j'allais dire presque tout un département, mais c'est vrai qu'il y avait des spectateurs un peu de partout qui étaient venus, de toute la Lozère, qui étaient venus encourager le Buisson, et donc c'est vrai qu'ils perdent 2-0, mais ils ont eu des occasions d'ouvrir le score, et bon, franchement, cette équipe du Buisson a fait un très joli parcours en Coupe de France. Bon, en championnat, ils ont commencé par un match nul à domicile 3-3, mais on peut penser qu'ils vont faire une excellente saison en PHB. Bon, mais ça s'appelle départemental, alors quoi, 2. Voilà, départemental 2, dans le district Gard-Lozère. Enfin, le district du Gard, puisque maintenant il y a un district de Lozère et un district du Gard.
Ils auront les maillots de la Coupe de France.
Et oui.
En plus, ouais, ça c'est chouette. Les féminines poursuivent leur bon début de championnat d'honneur régional et gagnent 1-0 contre Bayargues et sont toujours première ex aequo. Tu étais Julien,
bon
super.
Un bon début de championnat pour ces filles qui ont connu une saison un peu compliquée l'an dernier, mais. Elles ont pris de l'expérience avec la saison dernière et là elles ont gagné 1-0 au terme d'un match qu'elles ont maîtrisé globalement, mais elles se sont fait un peu peur en fin de match à ne pas avoir mis ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Leur gardienne les a un peu sauvées.
Il paraît que sur 34 FM aujourd'hui, les dirigeants se plaignent de l'arbitre de touche. Mandoa.
Des noms.
Qui a quand même bien aidé son équipe.
J'ai été l'incarnation de l'honnêteté.
Ah ouais. Oui, moi je le connais, il est honnête, hein, ah Julien.
Ouais. Non, honnête. Ouais. Oh, non, j'ai bien fait mon job.
Pas une médaille quand même.
Non, j'ai bien fait mon job.
Des fois, il regardait pas trop le ballon, il faisait pas attention, mais c'est un autre problème. Tiens, il faudra qu'on les réinvite, hein, parce qu'elles écoutent notre émission. Ouais. Alors, l'émission des capitaines va être reportée d'une semaine parce que je perds mon technicien la semaine prochaine, donc ça va être compliqué. Vu que c'est une émission exceptionnelle qui sera au Transfo à la salle du bas, là, du 10-12 rue des Clapiers. Peut-être qu'on pourrait les inviter la semaine prochaine. C'est trop tôt, qu'est-ce que vous en pensez?
La semaine d'après.
Non, la semaine prochaine. Parce que la semaine d'après, ça sera les capitaines dans deux semaines. Donc la semaine prochaine, où ça devait être les capitaines. Les filles, oui.
On peut. Elles jouent dimanche à Bagnoles, à Bagnoles-Pont. Et dans deux semaines, elles reçoivent Alès, l'OAC, qui va être un gros morceau de ce championnat. Parce qu'il y a beaucoup de filles de Saint-Christol-les-Alès qui ont rejoint l'OAC. Donc ça a l'air d'être une équipe assez solide.
Ok, super. Voilà. Tu t'en charges?
Je m'en charge. Allez, avec plaisir.
Tu nous trouves deux joueuses ou capitaine ou entraîneur ou goal, enfin ce que tu veux. On te laisse carte blanche. On te fait confiance.
Avec plaisir.
Le championnat départemental, j'ai pas eu les résultats. J'ai entendu ce matin un peu des échos. J'ai pas eu trop de résultats. Marvejol a fait
un gros match.
Le match que j'ai.
Ouais, Marvejol a gagné 5-1 hier au Cosdoche contre l'équipe 3 de l'AFL.
Il y a Badarou aussi qui a gagné, qui est MVP aussi. Marvejol et Badarou sont en tête pour
le Luisson qui fait match nul contre Saint-Georges 0-0.
Le Valdo a gagné 2-1 à Florac.
Le Massogro a gagné.
Oui.
Le Chastel perd à domicile 2-3 contre je sais plus qui.
Ouais, le Chastel a perdu, c'est vrai, tu as raison.
Vous savez tous les résultats, vous
êtes bon peut-être alors.
Ouais. Non, Monroda a perdu.
Monroda a perdu.
C'est contre Chirac, je crois.
Ouais.
C'est possible, ça?
Oui.
C'est
probable. Oui. Voilà, on a tout.
D'accord, mais bravo les gars. Donc voilà, Badarou, Marvejol, qui sont un peu les épouvantails de ce championnat. L'AFL, moi, on m'a dit, ça serait bien que Laurent Julien revienne mettre un peu de l'ordre dans cette équipe parce que ça devient n'importe quoi. Mais non, notre cher Lolo a trop de choses à faire. Laissez-le tranquille, hein, on le garde pour nous.
Il cherche un tireur de coup franc, donc il est préposé.
Ouais.
Et moi, je cherche mon dos là, pour les salles.
Ou sinon, il faut envoyer un stage intensif avec Aurélien. Tu vois, hein, le Mourinho de Lozère. Ok, vas-y.
Pour dire juste un petit mot pour la réserve. On joue dimanche à Roufiac à 15h. Donc, il n'y a pas de match de la Une, de la FL, tout ça, pour faire concurrence, entre guillemets.
Ouais.
J'aimerais. C'est un souhait qu'il y ait un petit peu des curieux qui viennent nous voir jouer, parce qu'après deux défaites sur les deux premières journées, on a un petit peu besoin de soutien pour. Lancer véritablement notre saison de R2 contre Metz, qui connaît aussi qui connaît un peu un début de saison compliqué aussi. Ils sont 1-0, 1-0. Donc voilà, avec un petit peu l'appui de 2-3 fidèles, ce serait sympa à Roufiac dimanche à 15h.
Ok, mais l'appel est lancé. La Une ne joue pas ou
si, la Une joue samedi à Blagnac.
Ok, en championnat.
En championnat.
Très bien, mais super, on va suivre ça. C'est le moment des pronostics, chers amis. Attention, voyez, on a mis en place un nouveau fichier sur le mur là qui donne les résultats avec notre cher Laurent qui est largement en tête avec un point. Et là, on retourne sur deux matchs, Monaco-Porto, PSG-Bayern. Donc maintenant, pour ce premier match, on commence par quoi? Monaco-Porto ou PSG-Bayern?
Monaco-Porto, on va le faire dans l'ordre.
Monaco-Porto, allez, dans l'ordre. Et vu que tu es l'actuel champion, on te laisse l'honneur de commencer, Laurent, sur ce match. Pas facile à pronostiquer,
alors,
hein, Monaco-Porto.
Pas facile à pronostiquer, donc je vais dire 0-1.
Pour
Porto qui va gagner à Monaco.
Ok, très bien, j'y crois pas un instant, mais je te fais confiance.
Depuis qu'il est en tête. Depuis qu'il est en tête, il ose tout.
Vas-y, Auré.
Moi, je dis 1-1.
D'accord, ok.
1-0 pour Monaco.
D'accord.
2-1 pour Monaco.
Très bien, 2-0 pour Monaco. On va partir dans l'autre sens, donc c'est moi qui vais prendre la suite. Moi, j'ai dit 2-0 pour Monaco. D'accord. Porto a perdu chez lui à domicile 3-1 contre Beşiktaş au premier match. Et t'avais oublié. Ah, ils ont la pression, mais c'est
bon. Rappel.
Alors PSG-Bayern, on va dire un 4-1 pour le PSG.
Ah ouais, grosse cote.
Oh, tu t'enflammes.
Bon, je m'enflamme.
2-1 pour Paris aussi.
3-2 pour Paris.
Moi, je dis 2-1 pour Paris aussi.
Ok.
Et moi, je dirais 3-0 pour le PSG.
C'est bien ça, ouais. Et oui, parce
Vous avez vu le gardien du Bayern, s'ils nous le remettent là.
C'est vrai que sur les coups francs. Sur les coups francs.
Cadré, c'est gagné.
Il a sorti le troisième gardien de la retraite, là. Ouais, ouais. Tom Starke, qui avait commencé à être entraîneur des gardiens. Et du coup, peut-être c'est lui qui va jouer, là. Parce que là, c'était Sven Ulrich contre Wolfsburg. Alors peut-être il va mettre Starke.
C'est vrai que Ulrich, c'était plutôt un cycliste. On l'a découvert dans les bars. Et c'est vrai
qu'il avait un peu les yeux rouges. Ouais,
c'est voilà,
c'est ça.
Il vaut mieux qu'il reparte sur le Tour de France.
Oui, et en plus, Paris s'est bien préparé. Ils ont eu un match très compliqué ce samedi dernier.
Sur une très économisée.
Sur une pelouse très compliquée aussi.
Sur une pelouse très compliquée.
Pas arrosée. Ouais. Sur un cru, sur un champ de patates.
Non, mais Paganelli, tu parlais de Paganelli un peu en off, mais Paganelli a donné l'explication. En fait, c'est un champignon. Et donc, il a dit que c'était les cèpes. voilà.
Du Paganelli, quoi.
C'est ça. allez, il nous reste 3 minutes pour parler de la Ligue 1. Ça va être rapide. Vous voulez parler de quoi? De Montpellier-Paris ou des clowns
de
Toulouse?
De Campos. Pour une fois que Marseille gagne.
On peut parler de Campos, ce joueur magistral.
Allez, on va parler de Campos, ouais. Allez, vas-y, fais-moi rêver.
Ce joueur magistral qui est tout fou. Et donc, il est capable de te faire un contrôle à 3 mètres et après de marquer de la cuisse, voilà, c'est vrai qu'il tacle, et c'est, je sais pas.
Ben, il mouille le maillot.
Ouais, non, mais tout à fait. Mais,
ouais, mais il est pas bon, non?
Non, mais.
Enfin, moi, j'ai jamais réussi à le comprendre, ce joueur, quand il était parti à Monaco, qu'il était revenu, ou à Nice, ou je sais pas où il était allé.
Alors, c'est vrai que,
à Monaco,
Garcia a dit qu'il avait les meilleurs tests physiques de tout l'effectif. C'est vrai qu'on peut le comprendre, parce que, à ce niveau-là, au nombre de sprints d'aller-retour sur l'aile, c'est impressionnant, quand même.
Quand il arrivait, on nous l'a annoncé comme le nouveau Argentin, comme la nouvelle perle.
Ah non, mais là, c'est pas ça.
C'est sûr que les tests physiques à côté de Rami et compagnie qui
c'est vrai, t'as raison.
Point de côté, rien que pour mettre ses chaussures.
Il éclate Rolando à la course, il paraît.
Et au jungle aussi.
Au jungle. Ouais, ok. Bon, mais.
Il y a un petit match sympa dimanche prochain, je crois.
C'est quoi?
Nice-Marseille ou un truc comme ça.
Attends, je regarde le classement. Ça fait quoi, Nice-Marseille?
Il y a 3 points d'écart entre Nice et Marseille.
Le 9e contre le 5e, ouais, tu me fais pas rêver. Ouais. Ok, bon, on va pas en parler.
Faut pas regarder le classement, là.
Nice
avec 10.
Oui, Nice est devant. Non, mais, Nice est derrière, ouais. Ouais, c'est vrai, Marseille, avec leur toll, ils sont
bien
quand
sûr.
Même 5e.
Bien sûr.
Hein
bien
bon,
sûr.
Bon, ils étaient beaux, les hommages à Tapie.
Oui, il y avait des bandes d'orange. Non, si, il y avait quand même un appui au niveau des supporters, voilà, pour qu'ils se battent. C'est vrai qu'il est devant quand même son plus gros défi. Et donc, on a vu un soutien des tribunes. Ouais.
Ok, ça a bien joué hier, ouais. Il disait match plus abouti.
Ouais, c'est le meilleur match de la saison parce qu'au niveau des demi-temps, il y a quand même eu plus d'action que ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison.
Ah, j'ai une info pour toi, Auré, tu as dû l'avoir passé. Anthony qui signe à Oklahoma City.
Oui, j'ai vu ça, oui.
C'est énorme, ça y est. Hein.
Et Boris Diaw à Paris.
Et Boris Diaw à Paris.
Boris Diaw qui revient en France.
Ça, on en a parlé la semaine dernière, je crois. Oklahoma City avec Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony.
Carlos Anthony, le joueur du MVL.
Ouais. Celui qui chante Tirlimpimpin sur le Chihuahua, Carlos Anthony. Voilà, bref. Allez, on va se quitter ça.
Ça n'importe quoi, cette fin d'émission.
Allez, ciao les gars, lundi prochain.
Bye bye.
Salut.
Au revoir. Leslie John au couloir en numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du Tapsi Apéro. La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde, au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du Tapsi Apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Quarante-huit FM.